7h45 en ce mercredi matin, on est à moins 25 degrés sous le soleil. C'est un petit peu plus froid que ça avec le ressenti. On est à moins 31. Donc ça, c'est la journée ensoleillée mais froide qu'on a avant la tempête qui s'en vient, qui va commencer le côté neige et flocons un petit peu après minuit ce soir. Donc moins 12 sera le maximum qu'on va atteindre cet après-midi. Demain, pas d'école, tu sais, je veux pas être... si la tendance se maintient, école fermée demain, non, mais tu sais, je veux pas être celle-là, la personne qui le confirme, mais on s'enligne pour ça, chers amis. Moins 9 dans tempête. Neige, parfois fort, poudrerie, ça va être compliqué pour les déplacements. Le plus intense de la neige, c'est partir de tôt demain matin. Là. Faible neige cette nuit. Demain matin, à partir de 6-7 heures, on y va dans la neige. C'est de même dans le matin, c'est de même l'après-midi. Ça se calme en début de soirée. Donc, bien concentrer cette tempête sur demain. 15 à 25 cm de neige, c'est ce qu'on dit pour le moment. Alternance de soleil et de nuages pour vendredi, la Saint-Valentin, à moins 9 degrés, moins 10 samedi. Fait que des journées sensiblement pareilles le vendredi, samedi. Et ensuite, autre bordée de neige dimanche qu'on va analyser et surveiller un petit peu plus près après cette tempête de demain, donc vendredi. Sur les routes, Max, ça sera pas facile demain matin, mais c'est quand même compliqué aujourd'hui.
Oui, accident qui cause des problèmes 40 Est un peu après la route de Faux-Sambeau, là, ce qui fait que c'est pas mal au ralenti dans ce coin-là présentement. Ça fait deux matins, puis même lundi, c'était pas facile, la 40 Est, là, dans le coin de Saint-Augustin-des-Morts, un autre matin qui est difficile. Secteur des ponts, vraiment pas facile encore ce matin. Capitale-Ouest, c'est au rouge. À partir de mi-chemin, je vous dirais, entre l'avenue du Bois-Royal et rue Seigneurial jusqu'à Laurentienne. En Arcatude, c'est bien jamé entre l'avenue industrielle et Chauveau-Ouest. Capitale-Est, même ce matin, là, entre le boulevard Masson et un peu l'autre bord de Robert-Bourassa, c'est au rouge. Même chose sur Robert-Bourassa, direction sud vers le boulevard Le Bourgneuf. C'est pas facile. Ça fait pas mal le tour.
Merci, Max. Et merci, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes incroyables. On a tellement eu de textos ce matin par rapport à ce qui se passe et ce que vous voyez sur les routes. Et c'est très apprécié. Mais vous êtes qui, vous, madame? Mademoiselle? Jacinthe Averelle? Non, mais on disait presque à la blague du tabac. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense que c'est à peu près deux semaines quand
faut
même.
Faut plus faire ça.
Non.
Non.
C'est partagé. Faut plus faire ça. Comment ça va, Jacinthe?
Ça va bien, merci.
Notre chroniqueuse politique, me semble, parce qu'on s'est pas jasé depuis une couple de semaines, il s'est passé des choses, on dirait, presque au quotidien. Presque à l'heure,
ouais,
il y a quelque chose de nouveau dans le monde politique.
Oui, oui, c'est ce qui fait que à chaque fois qu'on se voit, on a l'impression que la planète a tourné plusieurs fois.
Que ça fait une éternité.
Des centaines de fois, oui.
Hey, je veux qu'on commence avec autre sondage qui est sorti sur les intentions de vote. Je veux parler de cette remontée, voire spectaculaire, parce que là... Quelques semaines, fin 2024, quand on parlait de ce sujet-là, on parlait d'une victoire peut-être éventuellement là, aux prochaines élections fédérales, d'une victoire écrasante ou majoritaire des conservateurs. Là, ce n'est que des sondages, mais lorsqu'on demande aux gens, avec un Mark Carney, si éventuellement il est le prochain chef des libéraux, ça ressemblerait à quoi l'intention de vote? On est nez à nez ouais. À 37% que les conservateurs. Qu'est-ce que tu lis là-dedans, toi?
Bien, c'est un sondage léger qui est sorti hier. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, là, en fin de journée, on a eu les résultats du sondage léger qui s'est effectué auprès de 1500 Canadiens et qui révèle finalement que si c'était Mark Carney, comme tu le disais, qui était chef du Parti libéral du Canada, les résultats électoraux seraient nez à nez entre les conservateurs et le Parti libéral du Canada. Donc, c'est comme si Mark Carney, à la tête du Parti libéral, incarne une remontée dans les sondages, une remontée au point où on en est à nez à nez.
Parce que c'est pas la même chose avec Justin Trudeau, puis c'est pas les mêmes résultats non. Si c'est Chrystia Freeland.
Non, on va chercher un bon 6% par rapport à Justin Trudeau avec Mark Carney. Donc, c'est ce qui nous amène à 37% d'intention de vote. Et Chrystia Freeland est bien derrière. Il faut quand même dire que c'est un sondage auprès de 1 500 Canadiens effectué par Léger. Léger qui avait quand même anticipé la victoire de Kamala Harris aux États-Unis, je vous rappelle. Donc, ça ne veut pas dire que les sondages indiquent nécessairement une... ne sont pas des projections suite aux élections. Et c'est 1 500 Canadiens sur 40 millions de Canadiens.
On le prend tout le temps avec un grain de sel.
Il faut le prendre avec un grain de sel, mais ça reste que ça indique une tendance à, au candidat favori, Mark Carney. Ça explique aussi que s'il est favori parmi les sondés, les 1500 sondés, c'est peut-être aussi qu'on a globalement ou majoritairement dans les médias placé Mark Carney aussi comme favori. Parce que, est-ce qu'on entend beaucoup parler de... Chrystia Freeland. Est-ce qu'on entend beaucoup parler de Karina Gould, qui sont deux femmes qui sont toujours dans la course pour la chefferie du Parti libéral du Canada, mais dont on entend très peu parler. Alors, moi, ce que ça me révèle aussi, c'est que ça commence à être le candidat le plus connu, finalement, parce qu'on n'entend plus... on n'a pas des informations à chaque jour sur le programme de Karina Gould. On n'a pas beaucoup d'informations non plus sur le programme de Chrystia Freeland. Alors, il y a un beau travail de relations publiques qui réussit bien aussi.
Est-ce que c'est... typiquement au Québec, qu'on entend plus parler de Mark Carney par rapport aux deux autres candidates, et je m'explique, c'est parce que Carney a rallié tous les grands ténors québécois, les ministres sous Trudeau sont tous derrière lui. Je suis allé le voir au Palais de Bonhomme, c'est tous des francophones qui gèrent sa campagne. Donc, y a-t-il un effet Québec dans Mark Carney?
Oui, bien, il y a un effet support du cabinet du premier ministre du Canada. Il y a un article que je lisais hier là, dans, je pense que c'est dans la presse, où finalement, ça peut être Radio-Canada, là, prenez-moi pas au pied de la lettre, mais dans lequel justement Chrystia Freeland et Karina Gould se disaient déçus de la tournure de cette course-là à la chefferie.
C'est la presse,
oui. Oui, c'est ça, où Chrystia Freeland notamment dit, Mark Carney, c'est le candidat du cabinet du premier ministre. Alors, il a vraiment le support de l'establishment, de l'élite du Parti libéral. Donc, c'est sûr que si Justin Trudeau et tout son cabinet, tout son personnel sont derrière ce candidat, ça le favorise énormément. Donc, oui, il y a une belle grappe au Québec, mais quand le premier ministre, avec toute son organisation, soutient un candidat, ça le place vraiment de longueur d'avance.
Est-ce que tu as l'impression qu'on idéalise un peu Mark Carney au sein de la population, là, quand on regarde les résultats de son sondage, ça reste un gars qui a été proche conseiller justement du cabinet, puis tu te dis, OK, c'est quoi le rapport que tout d'un coup le Parti libéral revient avec lui? Il était quasiment le premier ministre, tu sais, j'exagère, mais il était proche de Justin Trudeau, là. Pourquoi, là, tout d'un coup, sa 7e, 8e merveille du monde?
Bien, justement, puis il est tellement proche qu'il est supporté par son cabinet. Ouais. il me semble que ça devrait aussi indiquer aux gens, justement, que le fait qu'il soit supporté par le cabinet du premier ministre indique que, finalement, bien, effectivement, ils sont assez proches. Puis Mark Carney, il faut savoir qu'il était conseiller de l'équipe économique, mais conseiller économique de Justin Trudeau depuis déjà 4 ans. Donc, il travaille auprès de Justin Trudeau depuis longtemps, mais ça, ce sont des faits qui passent comme un peu comme des nouvelles tertiaires, finalement. Je parlais avec ma mère, qui est un baromètre, qui est mon baromètre, là, pour voir, parce que moi, je baigne toujours dans l'information, je lis tout, mais je parlais avec ma mère de 77 ans, puis elle me disait, bien, Mark Carney, au moins, il incarne le nouveau, il n'est pas dans le gouvernement libéral, puis là, j'ai dit, bien non, mais c'est un conseiller de Justin Trudeau depuis des années. Il a conseillé durant la crise sanitaire. Il a conseillé aussi sur les politiques environnementales. C'était un pro-taxe carbone. Là, tout d'un coup, il s'identifie différemment. Alors, le fait qu'il soit dans l'équipe de Justin Trudeau depuis longtemps, c'est peu connu. Elle me dit, ah, ben tu me l'apprends. Je savais pas ça, moi. Donc, c'est dommage parce que ça donne l'impression, du moins, c'est au moins donner l'impression que la course, elle n'est pas équitable envers tous les candidats où Chrystia Freeland, finalement, et Karina Gould sont laissés derrière un peu seuls pour s'organiser.
Dernière question pour toi à ce sujet-là, Jacinthe-Ève. Et ce ne sont que des sondages. On le sait, on prend ça avec un grain de sel, mais souvent, dans les médias, on se base sur ces sondages-là. Est-ce que la remontée des libéraux, en tout cas dans le dernier sondage, est-ce que c'est l'effet Carney? Est-ce que c'est la situation politique-économique entre le Canada et les États-Unis? Est-ce que c'est le manque peut-être de stratégie du côté des conservateurs? Parce que, me semble, ils sont pas super présents depuis quelques semaines. C'est-tu un perfect storm de tout ça?
Si Pierre Poilievre et les conservateurs se positionnaient davantage par rapport à l'administration Trump, par rapport aux menaces tarifaires, ils pourraient se faire reprocher de pas rester à leur place de chef du parti d'opposition officielle. Alors, sa posture actuelle, c'est une posture prudente, mais c'est vrai que ça laisse place à la critique pour dire, ben coudonc, on le voit moins. Mais je pense que l'effet Carney, c'est vraiment ce qui les place le plus en position de force en ce moment. On a quelqu'un qui a un super beau CV, des belles études, des belles réalisations professionnelles, et on s'imagine finalement que d'avoir été gouverneur de la Banque du Canada, d'avoir été gouverneur de la Banque d'Angleterre, ça amène un avantage stratégique. On laisse de côté un peu l'aspect qu'il est parfaitement idéologiquement tout à fait aligné avec les politiques de Justin Trudeau. Puis on se laisse charmer finalement par le personnage, le CV et son allure qui incarne finalement la sécurité. Mais franchement, est-ce que cette vague-là, elle n'est que le début ou elle est finalement, on est déjà au sommet de cette vague-là? Ça sera le pari que le Parti libéral du Canada devra faire. Est-ce qu'on surfe plus longtemps sur cette vague-là pour vraiment espérer avoir des sondages qui remontent encore plus ou finalement ou au moins stabiliser ce 37 %-là d'intention de voix puis s'assurer qu'on va vraiment le chercher avec le temps ou on profite de ce momentum-là pour s'en aller en élection? Ça va être quelque chose à surveiller aussi au mois de mars. Vraiment la réaction là, du Parti libéral qui va se dire on a encore plusieurs mois jusqu'à l'automne peut-être pour continuer de faire une belle image dorée à Mark Carney qui va profiter de la crise. Mais l'effet Trump, c'est sûr que l'effet Trump, place en position vulnérable parce que là, tout le monde attend un sauveur.
Ouais. Parlant de l'effet Trump, on se retrouve à Washington. Notre premier ministre, François Legault, est là, mais il rencontre pas d'élus. À quel point ça fait mal à son égo?
Oui, hier, on voyait que Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, rencontrait déjà des élus lors de sa journée, de sa première journée à Washington, alors que François Legault a planifié des rencontres, mais plus aujourd'hui. Alors, il s'est fait talonner par les journalistes et il n'a pas aimé ça, là, qui lui demandait « Comment ça que Doug Ford rencontre des élus? Vous, ça n'a pas été planifié comme ça. » Est-ce que c'est un manque d'organisation de la part de son équipe qui a préparé son voyage? Est-ce que le voyage a été préparé à la dernière minute et ça n'a pas été possible de rencontrer ses homologues ou des collègues, finalement, élus américains? Mais c'est sûr que ça a été dur pour son image, ça a été dur pour son égo. Mais ça peut être aussi juste une question de timing. On a manqué de temps pour se préparer ça, mais ça indique une chose. Qu'on ait eu du temps pour préparer ça ou pas, ou que le voyage a été organisé à la dernière minute, ça indique qu'on a manqué à nos obligations d'entretenir des relations. Mm-hmm. Vous savez, on le dit...
Il n'a pas été là pendant 5 ans à Washington.
Exactement. Alors, on le dit souvent, c'est important d'entretenir nos relations. Hein. Notre réseau personnel est important. Mais en politique, c'est encore plus important. Et le réseau n'a pas été entretenu... du moins au cabinet du premier ministre. Bien sûr, il y a des délégations du Québec à Washington, délégations du Québec à New York, mais ces gens-là qui travaillent dans les délégations sont pas toujours nécessairement en contact avec l'ensemble des élus, l'ensemble de la classe politique. Et de toute façon, il reste que si le cabinet du premier ministre tente des premières communications, bien c'est sûr que ça veut pas dire que ça porte fruit rapidement quand ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Et sa déclaration, fracassante hier d'utiliser le mot ridicule en disant que finalement, l'approche de Donald Trump face aux tarifs sur l'aluminium était complètement ridicule, bien, ça aide pas à ouvrir des portes quand on utilise des termes comme ça, parce que justement, on connaît le personnage, M. Trump, qui aime pas se faire traiter de nom, qui aime pas... Bon, vous allez dire, ben oui, mais lui, il le fait. Ben oui, il le fait, mais ça nous ouvre pas des portes. De toute façon, dans la vie, est-ce qu'on s'ouvre des portes à aller insulter un éventuel partenaire, un éventuel interlocuteur? Ça fonctionne pas.
Notre premier ministre, es-tu des fois, tu m'ouvres une porte, là, es-tu des fois lost in translation? Tu sais, dans le sens que son anglais... Tu sais, c'est tough des fois, puis je le sais, il y a des gens de partout dans le monde qui n'ont pas l'anglais parfait, qui débarquent à Washington, qui vont jaser avec les politiciens, politiciennes, mais des fois, quand ton anglais n'est pas assez bon, tu vas peut-être utiliser le mauvais mot que tu veux utiliser en anglais et où tu vas utiliser un mot en français qui ne veut pas nécessairement dire. Est-ce que la langue vient jouer là-dedans?
Ben absolument. On le vit même dans notre langue maternelle. En français, parfois, on fait des gaffes. On n'utilise pas tout à fait le bon mot. On blesse des gens autour de nous ou à la radio. On se dit « Colin, j'ai été fort sur ce mot-là », mais le vrai bon mot, le bon terme juste n'est pas venu dans notre esprit assez rapidement. On s'est replié sur un autre mot, puis finalement, ça trahit pas tout à fait notre vraie pensée. Alors oui, la langue est une grande barrière. Là, il y a eu le bon réflexe, par contre, François Legault. Suite à ça, là, hier, sa journée difficile avec les médias, il s'est collé un peu plus sur Doug Ford et il s'est collé sur son agenda parce que là, on a su en fin de journée que Doug Ford l'a invité à une rencontre que lui avait planifiée avec des élus hier soir. Mm-hmm. Il a invité François Legault. Donc, si François Legault se colle sur Doug Ford, non seulement ça va lui permettre d'accéder à des rencontres ou d'avoir des portes un peu plus ouvertes, mais aussi d'avoir un collaborateur qui s'exprime très, très bien en anglais par la voix de Doug Ford et qui va permettre d'assouplir un peu les conversations et de s'assurer que Doug Ford parlera pour deux. Puis François Legault viendra renchérir avec quelques mots ici et là, mais au moins, on aura un Doug Ford fort sur la communication. Donc ça, c'est un très bon réflexe de François Legault, de ne pas avoir peur de se coller sur un interlocuteur qui maîtrise la langue, qui maîtrise les concepts, qui connaît bien les interlocuteurs.
Ils s'entendent bien, les deux, oui. Doug Ford et François
Legault? C'est une belle relation qu'ils ont depuis longtemps. Oui.
Est-ce que Doug Ford prend trop de place par rapport aux autres premiers ministres? Puis est-ce que ça explique pourquoi Daniel Smith fait bande à part à l'heure actuelle? Puis là même, je le ramène au Québec, on parle beaucoup des intérêts du Québec. Doug Ford peut-il défendre nos intérêts québécois?
Ben, Doug Ford est président de la fédération, du Conseil de la Fédération. Donc, l'ensemble des premiers ministres provinciaux se réunissent au sein du Conseil de la Fédération. C'est à ce titre-là du président du Conseil de la Fédération qu'il a plus de leadership et qui prend beaucoup de place. Donc, c'est pas nécessairement à titre de premier ministre de l'Ontario, mais bien entendu qu'il profite de cette tribune-là pour faire avancer son agenda ontarien, c'est sûr. Mais... cette rencontre-là à Washington, moi, je le vois comme un point tournant pour le Québec parce que jusqu'à maintenant, Doug Ford ne parlait pas nécessairement au nom des intérêts du Québec. Mais hier, on l'a entendu dans quelques répliques à des journalistes dire « on a besoin de l'aluminium du Québec ». Alors peut-être qu'on verra naître là, ici une espèce d'alliance plus forte entre le Québec et l'Ontario, ce qui serait super favorable. Mais bien entendu, la meilleure alliance, ça serait avec l'ensemble des premiers ministres des provinces, en incluant Daniel Smith, qui quand même ne gouverne pas une province de notes de bas de page. Là. L'Alberta, c'est pas une note de bas de page. Et là, j'emprunte l'expression que j'ai entendue ailleurs, c'est pas la mienne, je l'ai trouvée très parlante, mais l'Alberta n'est pas une note en bas de page. Alors, quand l'Alberta ou quand le Daniel Smith se positionne, on ne devrait pas relayer ça à un simple refus de sa part ou une abstention, mais plutôt une ouverture à discuter avec elle davantage, parce qu'on a besoin aussi de l'économie de l'Alberta. Là.
Ouais. Jacinthe Averell, qu'est-ce que tu fais demain? Je te pose la question parce que ça faisait deux semaines qu'on ne s'était pas vu, puis c'est bien trop long. Là.
Ben oui.
C'est bien trop long. Il ne faut pas repasser un deux semaines sans se jaser. Il y a trop de choses qui se passent. On va se reparler très bientôt. Jacinthe Averell, c'est notre chroniqueuse politique qu'on apprécie, vous le savez, énormément. Autant que vous, d'ailleurs, parce que c'est fou les réactions par texto et autres lorsque Jacinthe Averell passe nous voir. Merci de passer nous voir ce matin. On se reparle bientôt. Là.
Bientôt.
Parfait.
Cool.
Et, après la pause, Étienne Lessard sera avec nous. Oui. C'est l'excellent courtier immobilier que vous entendez régulièrement à Rage Against le matin. Il y a deux semaines à peu près, Étienne était avec nous et il y avait tellement de questions qui entraient par texto par rapport à des situations immobilières, des ventes, des achats, le marché immobilier du moment début d'année 2025. Cette chronique-là, cette discussion-là, elle est à vous qui s'en vient. Ça rentre déjà, là, si vous avez une question immobilière, vous pensez vendre, acheter dans la prochaine année, bientôt, vous êtes curieux par rapport au marché, des questions précises, let's go, c'est votre chance. 88-971-1021, on pose vos questions à Étienne Lessard. Rage.